La tête au carré, du lundi au vendredi sur France Inter, à partir de 14h. La tête. Et au menu de notre club cet après-midi, un grand mécano de mécanique quantique pour percer les secrets, entre autres, de la supraconductivité, du spin et des lasers. Le plus beau pays du monde nous emmènera dans les Alpes pour un film diffusé demain soir sur France 2. Et puis un chasseur d'astéroïdes viendra nous raconter sa grande passion pour les objets célestes. Vous pouvez nous rejoindre avec vos messages sur franceinter.fr. Héloïse Rambert, bonjour.
Bonjour Mathieu.
Aujourd'hui à la une de la science, une découverte surprenante sur les limites de notre atmosphère terrestre.
Oui, on va voir que la couche de gaz qui entoure notre Terre s'étend beaucoup plus loin que ce que l'on pensait. Elle va jusqu'à la Lune et même bien au-delà.
Allons bon, et c'est Fanny Boyon qui réalise cette émission préparée aujourd'hui par Lucie Sarfati, Chantal Le Montagnier et Irène Menahem.
La tête au carré, le club, avec Mathieu Vidard sur France Inter.
Et je salue nos invités cet après-midi, Julien Bobroff, Frédéric Fouja, Franck Courchamp et Michel Horry. Bonjour à tous les quatre.
Bonjour.
Et bienvenue, Julien Bobroff. Vous publiez Mon grand mécano quantique chez Flammarion, qui se classe déjà dans les meilleures ventes de livres de science, ce qui veut dire que finalement, le grand public n'a pas peur de se frotter à un sujet en apparence aussi épineux que la physique quantique. C'est bien, ça, c'est encourageant.
C'est une très bonne surprise.
Ouais.
On espère que, en offrant un autre point de vue sur la physique quantique, avec plein d'illustrations, et puis depuis les labos, on intimide un petit peu moins les gens.
Voilà, bah apparemment, le pari est réussi. Frédéric Fouja, demain soir, les téléspectateurs de France 2 vont découvrir le troisième opus de, comment on peut dire, cette série, finalement, le plus grand pays du monde.
Collection, ouais.
Collection, voilà. Et cette fois-ci, vous faites escale dans les Alpes pour un grand voyage dans ce massif alpin, qui est un sanctuaire extraordinaire.
Un sanctuaire fabuleux, et d'ailleurs un refuge pour pas mal d'espèces. Et il y a des bonnes nouvelles là-bas. Il n'y a pas que l'horreur. Oui, il y a beaucoup d'espèces qui réapparaissent, qui renaissent, notamment le loup, grâce aux Alpes. Et on va examiner un peu on part à la recherche des stratégies de la vie dans ce milieu extrême des hautes montagnes, comment la vie répond à ces conditions difficiles.
Et c'est Louve qui est le fil rouge, hein, voilà, justement, de ce film. Franck Courchamp, vous avez été conseiller scientifique, justement, de ce nouveau numéro du plus beau pays du monde. Est-ce qu'on peut parler des Alpes comme un seul écosystème, ou au contraire, il faut l'imaginer comme une nature ultra diversifiée?
Ah non, c'est une mosaïque d'écosystèmes. Ouais. Tout simplement, une mare, c'est un écosystème. Une rivière, c'est un écosystème. Une forêt, c'est un écosystème. Donc, dans la montagne, qui est un écosystème, il y a plein d'écosystèmes.
Et puis avec nous, un homme qui connaît bien les Alpes et le Jura suisse en particulier, Michel Horry. Vous êtes astronome amateur et vous publiez Chasseur d'astéroïdes aux éditions Le Pommier. Votre truc à vous, c'est donc de découvrir des corps célestes.
Voilà, des petits corps du système solaire, en fait, qui ont été très longtemps délaissés, mais depuis les missions américaines et Rosetta, notamment, ces petits corps qui sont qui n'ont pas évolué depuis l'origine du système solaire sont très intéressants aujourd'hui. Voilà. Donc moi, je les chasse, je les épingle au bout d'un télescope.
Et
voilà.
Vous en avez combien, votre tableau de chasse, alors, des astéroïdes?
Alors, c'est une longue traque, parce que dès l'instant en observant, il faut 5 à 10 ans pour qu'ils soient officiels découvert, donc j'en ai plus de 200. Là.
Et vous êtes un homme patient, donc ça tombe très très bien. Voilà. On va se retrouver dans un instant tous ensemble, mais pour le moment, c'est la une de la science.
J'ai eu l'occasion, quand je pilotais le X-15, d'observer l'atmosphère. Quand on regarde une fusée décoller, ça paraît immense, et on n'y pense même pas, mais quand on regarde tout ça d'un autre point de vue, elle était si fine, c'était une part si infime de la Terre.
Voilà un extrait du film First Man qui raconte donc la vie du premier homme à avoir marché sur la Lune, Neil Armstrong. Armstrong qui pensait certainement avoir contemplé l'atmosphère terrestre dans son intégralité et donc de très loin, alors qu'en fait, pas du tout, Héloïse.
Non, pas du tout. En fait, Armstrong sur la Lune baignait encore dans l'atmosphère terrestre, si je puis dire.
Ouais.
C'est ce que nous explique une étude parue dans la revue Journal of Geophysical Research. L'atmosphère terrestre s'étend très loin dans l'espace, jusqu'à se fondre dans l'espace, au-delà de la Lune.
Incroyable.
Incroyable. Nous sommes avec Jean-Louis Bertocco, auteur de l'étude, pour en parler. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes directeur de recherche émérite au CNRS, au sein du laboratoire LATMOS, laboratoire atmosphère milieu observation spatiale. Vous êtes aussi à Moscou, au laboratoire IKI. Alors souvent, nous, on se représente l'atmosphère comme une mince couche bleue autour de la Terre, mais c'est beaucoup plus que ça.
Disons qu'il y a différentes couches dans l'atmosphère. La troposphère, jusqu'à 10 km où il y a des nuages. La stratosphère, puis la mésosphère, puis la thermosphère qui s'étend de 100 à 500 km. Et au-delà de 500 km, c'est ce qu'on appelle l'exosphère.
Et tout là, ça fait partie de l'atmosphère ?
Oui, oui, ça, bah oui, parce que... Ouais. Oui. Et au-delà de 500 km, disons, il y a la densité est si faible que les atomes font comme des fusées. Et ils partent sur des trajectoires balistiques. Et un certain nombre ont une vitesse suffisante pour s'échapper de la Terre et s'en vont jusqu'à l'infini. Sauf qu'ils vont être tués au bout de 10 jours environ.
Donc vous êtes intéressé spécifiquement à l'exosphère. Qu'est-ce qui s'y passe exactement ? Ce sont les atomes d'hydrogène qui s'échappent ? Expliquez-nous.
Eh bien, en fait, ces atomes d'hydrogène sont produits parce qu'il y a de la vapeur d'eau dans l'atmosphère qui est dissociée en atomes d'hydrogène et d'oxygène. Et je travaille dessus depuis 1964. Alors, vous vous rendez compte ? Et c'était mon sujet de thèse. Mais là, c'est revenu au goût du jour avec des nouvelles observations.
Et cette exosphère, on ne peut pas la voir à l'œil nu ?
Non, parce que en fait, l'hydrogène atomique, on ne peut le détecter que dans la lumière ultraviolette. Il y a une source, le Soleil est une source très importante de cette lumière ultraviolette spécifique de l'atome d'hydrogène, un peu comme les atomes de sodium. Vous connaissez la couleur des lampes à sodium. Eh bien, l'équivalent pour l'hydrogène, c'est une raie qu'on appelle la raie Lyman alpha, qui est complètement absorbée par l'atmosphère terrestre. Donc, depuis le sol, on peut rien voir. Et par contre, si on envoie des fusées, des satellites, on peut voir tous les atomes d'hydrogène qui sont dans le système solaire. Qui deviennent lumineux.
Oui, pardonnez-moi, mais c'est quoi la couleur de la lampe à sodium ?
Orange, rouge, orange. Vous êtes dans les tunnels du périphérique de temps en temps.
Ah,
vous arrivez,
c'est ça.
Et tout d'un coup, vous rendez compte qu'il n'y a plus aucune couleur. Simplement, il y a la couleur orange et toutes les voitures ont la même couleur.
Donc, vous avez dû utiliser des instruments que vous avez envoyés dans l'espace pour voir cette exosphère. Ça fonctionne comment ?
Alors, en fait, l'instrument qu'on avait envoyé sur la sonde SOHO, et était pas du tout dédié à ça, c'était pour regarder justement un hydrogène, une autre source d'hydrogène qui est l'hydrogène interplanétaire, qui est détruit par le vent solaire, et comme ça on a pu détecter que le vent solaire n'était pas le même à toutes les latitudes du Soleil. C'est-à-dire, il y en a plus dans le plan équatorial du Soleil qu'au pôle.
Et alors, ça va jusqu'où ? En termes de kilomètres, on peut le chiffrer.
Alors, l'exosphère de la Terre, justement, cet appareil qui se trouve sur Sceaux, hein, au point de Lagrange, c'est-à-dire 1,5 million de kilomètres vers le Soleil. De là, on peut bien voir l'étendue complète de l'exosphère terrestre et qui s'étend jusqu'à 2 fois l'orbite de la Lune.
Alors qu'avant, on pensait qu'elle s'arrêtait où ?
Alors, on pensait que ça s'arrêtait peut-être à 200 000 kilomètres à peu près.
Il y avait
une sonde japonaise qui avait réussi à faire une photo jusqu'à environ 200 000 kilomètres, mais là. On multiplie par 3 à la distance.
Donc Neil Armstrong baignait encore dans l'atmosphère terrestre sur la Lune.
Oui, oui,
mais
absolument.
C'est incroyable.
Et alors, en fait, ils avaient justement mis sur le sol de la Lune un appareil de photo sensible à cette ultraviolet. Ils ont fait une très jolie photo de l'exosphère de la Terre, mais on voyait que ça s'étendait jusqu'à, disons, 100 000 km et pas plus.
Mais il faut dire quand même qu'elle est beaucoup moins dense que celle dans laquelle on baigne aujourd'hui. Plus on s'éloigne de la Terre, moins il y a de matière, c'est ça ?
Oui, c'est ça. Oui. À l'orbite de la Lune, il ne reste plus qu'environ un atome par centimètre cube.
Alors, est-ce qu'on pourrait utiliser cet hydrogène si on retourne sur la Lune ? Est-ce qu'on pourrait l'exploiter, en faire une source d'énergie ou vraiment il y en a trop peu ?
Non, vraiment il y en a trop peu. Là, je crois qu'on ne peut pas envisager que ça devienne une source importante.
Et est-ce que cette présence d'hydrogène doit être prise en compte aussi pour d'autres mesures ? Est-ce que c'est une information qu'il faudra prendre en compte pour de futurs travaux ?
Justement, j'ai dit que tous les atomes d'hydrogène émettaient un peu de cette lumière Lyman alpha et tous les télescopes spatiaux qui regardent dans n'importe quelle direction, ils voient toujours cette émission. Alors heureusement, elle est confinée dans un espace spectral, petit endroit spectral, donc il faut l'éliminer.
Michel Horry, vous le saviez, ça, que nous avions cette atmosphère qui allait si loin dans l'espace ?
Non, pas du tout, mais je connais la planète Pluton, et la planète Pluton est un petit corps, mais son atmosphère est plusieurs fois son diamètre. Donc ça, c'est connu depuis un certain temps, donc ça ne me surprend qu'à moitié.
Oui, enfin, l'atmosphère terrestre ne va pas jusqu'à Pluton, quand même.
Non, parce que les atomes d'hydrogène qu'elle émet meurent
avant. Héloïse.
On parle souvent des exoplanètes, donc d'autres planètes que la nôtre. Est-ce que si on voit ce signal, ça pourrait nous apprendre quelque chose d'elles ?
Bien, effectivement, les planètes terrestres ont toutes cette exosphère plus ou moins grande, et parce que ça révèle la présence de vapeur d'eau dans l'atmosphère. Et on peut imaginer que si on regarde des exoplanètes, on pourrait, si on voit cette fameuse émission Lyman alpha ultraviolette, peut-être que c'est l'indice qu'il y a de la vapeur d'eau sur ces planètes.
Merci beaucoup Jean-Loup Berthaud en tout cas pour ces précisions et cette découverte quand même pour la plupart d'entre nous, hein, cette ampleur de l'atmosphère terrestre. Vous êtes donc directeur de recherche émérite au CNRS dans ce laboratoire L'Atmos. Merci beaucoup Héloïse. La semaine prochaine à Une de la Science, ce sera avec Daniel Fievé.
À bientôt alors
bon
Mathieu.
Bon week-end. Beat 54, c'était Jungle.
La tête au carré, le club.
Voilà, au menu de ce club cet après-midi, mécanique quantique, odyssée dans les Alpes et chasse aux météorites, avec mes invités Julien Bobrov, Frédéric Fouja, Franck Courchamp et Michel Horry. Julien Bobrov, on va commencer avec vous. Vous êtes physicien, professeur à l'Université Paris-Sud et vous dirigez la physique autrement. C'est une équipe de recherche dédiée justement à la vulgarisation, on va en parler. Le but, c'est d'explorer toutes les façons originales justement dont on peut imaginer l'enseignement de la physique. Et puis, vous venez nous présenter votre premier livre. Alors ça, j'étais étonné, parce que j'étais persuadé que vous en aviez fait avant, vous qui avez les pieds dans la vulgarisation depuis aussi longtemps, c'est le premier ouvrage que vous écrivez?
Ben oui, j'ai mis du temps.
Mais oui.
Et c'est Flammarion qui est venu me voir en me disant, là ça vaut peut-être le coup de se lancer.
Oui, ouais, incroyable, donc ça s'appelle Mon grand mécano quantique, et vous racontez justement comment eh bien, faire de la physique avec des expériences, vous en avez choisi 11, incarnées par de grands noms aussi de la physique. Alors ce livre justement paraît chez Flammarion, c'est déjà un succès. Comment vous avez d'abord imaginé ces histoires que vous nous raconter, pourquoi 11 et comment vous les avez sélectionnés au départ?
Mais j'aurais voulu en mettre 30 ou 40,
j'imagine.
C'était pas très très bien. Je crois que je suis parti de ma propre expérience. Moi, au début, la physique quantique telle que je l'imaginais en étudiant basique en physique, c'était des théoriciens géniaux devant des tableaux noirs qui faisaient des équations fabuleuses, puis derrière des laborantins en blouse blanche devant des très beaux appareils qui vérifiaient si ça marchait.
Donc pas très joyeux quand même, quoi.
Pas joyeux pour les laborantins en tous les cas, et avec ce côté très noble de la théorie. Puis la première fois que je suis arrivé moi-même dans un labo de physique quantique, j'ai vu que c'était peu près l'inverse, c'est-à-dire qu'il n'y avait pas de blouse blanche, que les très belles expériences, il y avait quand même aussi beaucoup de papier alu, de câbles, de scotch, de fil. Et puis surtout qu'en fait, les expérimentateurs très rarement vérifiaient ce que faisaient les théoriciens, et en général, exploraient eux-mêmes ce dont ils avaient envie, découvraient des choses incroyables, et que derrière ça, les théoriciens s'en emparaient pour effectivement produire des théories géniales.
C'est un peu le chaos, quoi, finalement. C'est ce que vous décrivez, un petit chaos sympathique.
C'est un peu le chaos, c'est un peu bricolo, et puis c'est aussi un va-et-vient permanent entre les concepts, les belles équations, et aussi vraiment de la matière, de l'exploration et de la découverte.
Ouais, sauf que c'est ça finalement qui vous a donné aussi envie de faire de la physique, hein, c'est de découvrir ces laboratoires et cette ambiance-là tout à fait particulière que vous venez de nous décrire. Hein.
Oui, clairement, la première fois que je suis rentré dans un labo comme ça, je me suis dit que c'était ça ma vie et qu'il fallait que j'y sois pendant des années pour me rendre compte moi-même. Ouais. Il y a un côté explorateur où on a de la matière, on n'y comprend quand même rien, ouais. Et puis on la sonde un peu dans ses retranchements les plus extrêmes et soudain il nous dit quelque chose auquel on ne s'attendait pas.
Ouais, Franck Corchamps qui fait pas de la physique mais pourtant se retrouve dans cette description des labos.
J'ai l'impression que tu es en train de décrire de l'écologie où effectivement les expérimentateurs et les observateurs et les théoriciens font des allers-retours tout le temps, sans arrêt, avec des échanges, et c'est exactement ça, j'ai l'impression que c'est la même chose.
Ouais. Donc cette première visite de labo, ça a été décisif pour vous, hein?
Ah oui, très clairement.
Pour la suite, votre voie a été tracée.
Oui, voilà, ça je me disais, c'était ça qu'il fallait que je fasse.
Et qu'est-ce qui vous fascine autant, toujours d'ailleurs, aujourd'hui, en physique, avec ce goût, cet appétit de la transmission aussi?
Alors, la physique quantique, elle me fascine déjà parce qu'elle est non-intuitive, qu'elle échappe à l'entendement, qu'elle est curieuse, mais en plus qu'elle s'incarne vraiment dans la vie de tous les jours. C'est ça que j'aime bien, moi, c'est cette espèce de paradoxe que cette table, elle est complètement quantique et qu'elle présente plein de propriétés qu'on ne peut comprendre qu'en faisant ce chemin de détour incroyable, très conceptuel, très fondamental, pour aller finalement comprendre notre quotidien.
Ouais, donc l'aspect application, c'est très important aussi pour toucher le public, j'imagine, quand même.
Oui, moi, je m'en fiche complètement des applications, je dois être honnête, oui.
Mais la table, c'est une application, quand même, ce que vous nous décrivez.
La table, ça permet de la comprendre, mais elle existe avant la physique quantique, et bien heureusement, et les menuisiers aussi.
Ouais.
Ce que je veux dire par là, c'est que la recherche fondamentale pour moi a tout son sens, c'est ce que j'ai fait moi pendant 20 ans, et essayer juste de repousser les frontières des connaissances, c'est passionnant. Ce que montrent les histoires que je raconte, c'est qu'en général, les types qui ont fait ces recherches-là ne s'intéressaient pas du tout aux applications, sauf peut-être pour le laser, et que les applications sont arrivées après de façon tout à fait naturelle, mais sans qu'on s'y attende ou qu'on les ait voulu.
Ouais. Donc il y a toute cette recherche fondamentale, justement, que vous mettez en avant. Alors il faut quand même signaler aussi que vous avez été accompagné par quelqu'un pour les illustrations, parce que évidemment aujourd'hui, souvent quand on publie des livres pour le grand public, on fait appel au dessin, et là c'est très réussi une fois de plus. Comment s'appelle-t-elle ?
Oui, c'est Marine Joumard, avec qui on avait travaillé dans notre équipe. Dans notre équipe, on a cette longue tradition de travailler avec des designers, avec des illustrateurs, avec des créatifs, et elle en particulier qui fait des dessins vraiment d'un style que moi j'aime beaucoup, très fort, et on s'amusait par exemple à faire des fiches d'identité pour chacune des expériences.
C'est vrai, elle vous représente d'ailleurs en couverture de cet ouvrage, parmi quand même aussi des grands noms de la physique, Julien Beaubreuil. Enfin, vous êtes bien entouré quand même.
Non, moi je ne fais que raconter les histoires.
Alors, racontez-nous justement une de ces histoires, peut-être celle dont vous dites qu'elle est la plus marquante aussi pour les physiciens aujourd'hui.
Oh, elles sont toutes marquantes. Une que j'aime bien peut-être, c'est vraiment celle qui est à la base de la physique quantique, c'est celle faite par Davison et Germer, qui sont à peu près inconnus du grand public.
Ouais,
donc, Davison et Germer, c'était des ingénieurs d'une compagnie de téléphone américaine et qui étudiaient très concrètement comment le métal subit des radiations et s'endommage ou pas. Donc, ils balançaient des électrons sur du nickel et ils regardaient comment les électrons rebondissaient. Et en gros, ils rebondissaient absolument n'importe comment, donc ils n'y comprenaient rien. Mais ils sont obstinés. Il y a ce côté persévérance, obstination dans le monde de la physique quantique et dans le monde de la science en général. Et au bout de 5 ou 10 ans, manque de chance, non seulement ils ne comprennent rien, mais en plus le labo explose. Il y a une bouteille d'air liquide qui explose.
Ah ouais.
Et en fait,
c'est la plus belle chose qui soit passée.
Oui, parce que c'est des sciences très délicates, sous vide, sous verre. Et en fait, en explosant, ça fait fondre le bout de nickel. Et le bout de nickel, après, en refroidissant, se reconstruit et tous les atomes, là, s'organisent parfaitement. On a un monocristal. Et là, quand ils envoient les électrons, soudain, ils repartent dans des directions tout à fait particulières. Alors, ils se disent, ah, mais bien sûr, on a tout compris. Les atomes se sont bien mis les uns à côté des autres, un peu comme une armée de soldats. Et donc, quand on envoie les électrons, bah, soit ils passent entre les soldats, soit ils rebondissent.
Ouais.
Mais ça marchait absolument pas avec leurs observations. Donc, ils comprenaient rien. Et là, autre coup de chance, en science, on aime bien voyager, aller voir des conférences. Et il part avec sa famille en Angleterre, Davison. On est en 1925, je crois, à l'été. Et il assiste, même si c'est des vacances, à une conférence de Max Born, qui est un des grands physiciens de l'époque, qui parle de physique quantique. C'était le tout début de la physique quantique. Et on a cette scène absolument incroyable de Davison assis dans la salle de conférence. Et Max Born qui dit, écoutez, il y a une idée géniale par un jeune Français qui s'appelle Louis de Broglie, qui vient dans sa thèse de proposer que la matière pouvait se comporter comme une onde. Dualité onde-particule, c'est-à-dire qu'un atome ou un électron, ça peut être une onde. Et d'ailleurs, un physicien américain, Davison, vient de le montrer. Donc Davison, dans la salle, qui entend son nom, qui n'a aucune idée de qui peut être de Broglie, de ce que peut être la dualité onde-particule, tombe littéralement sur place, refait les calculs, et se rend compte qu'en fait, sans s'en rendre compte, il avait montré la dualité onde-particule, qu'en fait, les électrons, la façon dont ils rebondissent sur ce bout de nickel était caractéristique de petites vagues, comme si on avait envoyé des vagues sur cette fameuse armée d'atomes, armée de soldats. Et donc il y a ce côté complètement simultané entre expérience et théorie, c'était clairement pas la théorie avant l'expérience ou l'expérience avant la théorie, c'était les deux en parallèle qui s'ignoraient et qui soudain se découvrent l'un l'autre et qui auront tous des prix Nobel à la fin.
Oui, Franck Courchamp.
Oui, la conclusion c'est que si vous bloquez sur vos études, tous les chercheurs qui nous écoutent, faites votre labo.
Faites exploser. Et partez en vacances pour
explosion, vacances et ça marchera.
La question c'est, est-ce qu'il faut des accidents pour faire des découvertes?
Non. Alors, ouais, celle-là, bon, elle est particulière, cette expérience-là. C'est vrai qu'on peut se dire qu'il y a un accident. J'aime pas cette idée du coup de chance ou du coup de hasard. Davison était le seul qui aurait pu faire cette expérience à l'époque. Il avait bossé pendant 10 ans dans son labo pour arriver à faire l'expérience. Et le point clé, je crois, c'est pas la chance, c'est l'attention à cette chance et à cet inattendu. Il y a un truc inattendu qui se passe, mais il le rate pas.
C'est ça.
Il se rend compte que quelque chose a eu lieu, et là, il le retravaille, il le systématise, il refabrique d'autres cristaux. Il faut voir qu'après l'accident, il lui refaudra 2 ou 3 ans pour systématiser ça et faire un vrai travail scientifique. Donc il rate pas la chance.
Ouais. C'est ça. C'est-à-dire qu'il y a eu incubation finalement aussi de sa pensée avant que l'événement se produise, ce qui a fait qu'il y a un moment où il a pu
observer
ça. Les
échelles de temps sont violentes. Hein. Là, on parle de 15 ans, 20 ans de boulot. Et c'est assez admirable de penser que la compagnie de téléphone américaine accepte de financer pendant 15 ans ce travail qui ne sert absolument à rien à l'époque.
Ouais.
Donc sur votre question du est-ce que ça sert à quelque chose,
alors
ça sert à fonder la physique quantique parce que ce concept d'ondes et de particules va être au cœur de la physique quantique. Et 2-3 ans après, on a la première application.
Ouais.
C'est-à-dire qu'un Allemand se dit, mais moi je vais utiliser ça pour faire un nouveau microscope. Parce qu'après tout, un microscope, c'est quoi? C'est de la lumière, donc c'est des ondes. On pourrait faire un microscope avec des électrons, si les électrons sont des ondes. Et il invente le microscope électronique. Et ça va être l'outil de choix de génération de physiciens et de biologistes. C'est ce qui permet de voir toute la biologie actuelle à l'échelle du nanomètre.
Ouais, cette dualité onde-particule que vous venez de nous décrire, Julien Bobrov, c'est une expérience très importante aussi pour les physiciens. Je crois qu'elle a vraiment une place tout à fait à part, non?
Ah oui, c'est une expérience qu'on adore. Alors on l'a fait de façon plus moderne maintenant avec 2 fentes. On appelle ça l'expérience des fentes d'Hume. On balance ces mêmes électrons sur 2 fentes. On regarde derrière. Et on voit qu'ils se comportent comme des ondes. On sait même faire ça avec de relativement grosses molécules. Donc c'est quelque chose qui a fasciné des générations de physiciens. Quand on les fait même voter sur leur expérience préférée, c'est en général l'expérience des fentes d'Hund quantiques qui ressort numéro 1.
Ouais. Vous nous parlez évidemment du chat de Schrödinger, de cette expérience. Et pour l'illustrer, on va écouter un extrait de cette série qu'on adore, c'est Big Bang Theory.
Je me suis rendu compte il y a quelque temps que Léonard avait un petit béguin pour moi. Léonard n'est pas le genre de garçon avec qui je sors d'habitude. Si ça colle pas avec Léonard, je risque de perdre un très bon ami.
Ça me fait penser au chat de Schrödinger.
Schrödinger? C'est la femme de l'appart A?
Non, elle, c'est Madame Grossinger. Bon, bref. En 1935, Erwin Schrödinger, en essayant d'expliquer l'interprétation de Copenhague de la physique quantique, proposa une expérience avec un chat. On l'enferma dans une boîte avec une fiole de poison qui devait s'ouvrir ou se briser à un moment donné. Personne ne savait au juste quand la fiole de poison allait se déverser. Donc, jusqu'à l'ouverture de la boîte, on considérait que la pauvre bête était à la fois vivante et morte.
Excuse-moi, je vois pas le rapport.
Tout comme le chat de Schrödinger, on peut considérer ta relation potentielle avec Léonard comme bonne et mauvaise. Et ce n'est qu'en ouvrant la boîte que tu découvriras qui il est.
D'accord, donc tu veux dire que je devrais sortir avec Léonard ?
Voilà, bon, c'est complètement tiré par les cheveux, évidemment, mais c'est une façon de parler du chat de Schrödinger, ce qui est pas si mal, finalement, Julien Bobrov.
Oui, c'est déjà bien.
Tous les moyens sont bons.
Tous les moyens
Alors, parlez-nous quand même de cette expérience que tout le monde connaît au moins de nom, ça c'est sûr, mais qui est quand même toujours très compliquée à expliquer, finalement.
Oui, elle est compliquée. Hein. Et puis Schrödinger avait dit à l'époque, de toute façon, elle serait impossible à faire. Donc, rassurez-vous. Alors, il s'était planté.
Il s'est trompé.
Pour le coup, il s'est trompé. C'est des Français qui ont fait cette expérience. C'est l'équipe de Serge Haroche, qui a eu le prix Nobel pour ça, notamment.
Ouais.
L'expérience, elle est magnifique et elle est compliquée. Alors, l'idée de départ, je reprends Big Bang Theory en 2 mots, c'est à l'échelle quantique, un atome ou un électron peut vraiment être dans 2 états à la fois. Par exemple, à 2 endroits à la fois, ou à 2 vitesses à la fois. Et ça, on le sait, on le maîtrise, on le mesure. Mmh. La question, c'est jusqu'à quelle taille? Est-ce que nous-mêmes, on pourrait être dans 2 états à la fois? Est-ce que le chat pourrait être mort et vivant? Et ça, a priori, non. Dans notre vie de tous les jours, on voit bien que c'est pas vrai. Donc, où est la limite? Où est la frontière? Et ce qu'a fait Serge Haroche, c'est une très très belle expérience, très sophistiquée. Alors, je vais vous la faire très rapidement. D'abord, il fait pas un vrai chat. Il fabrique un chat avec de la lumière. Il prend des petits grains de lumière qu'il piège dans une boîte et il les fait grossir progressivement. Enfin, il en met de plus en plus et il les met dans 2 états à la fois. Alors déjà, c'est pas possible, ça a priori, parce qu'un grain de lumière, ça s'écrase tout de suite contre un mur et c'est absorbé. Donc il met des miroirs, il fabrique les meilleurs miroirs au monde pour faire ça, des miroirs en supraconducteur, refroidis à l'hélium liquide. Puis il crée ce chat lumineux, et puis ensuite, il va essayer de le mettre dans 2 états à la fois, pour ça il va utiliser des atomes un peu spéciaux, et puis après il va regarder ce qui lui arrive à ce chat au cours du temps. Et il va se rendre compte de cette chose incroyable. D'abord, si le chat est tout petit, il reste dans 2 états à la fois. Ça, c'est ce que disait la physique quantique, il n'y a rien de surprenant. Si on le fait grossir, il arrête d'être dans 2 états à la fois, mais lui, il se met entre les deux. Et entre les deux, il se rend compte que quand le chat fait, je sais pas, 10 photons, par exemple, tout petit chat quantique, eh bien, il va rester dans les 2 états, et puis au bout d'un moment, il va choisir. Il va choisir s'il meurt ou s'il vit, lequel des 2 états il se met. Et ce choix-là, il va dépendre de la taille du chat. Plus le chat est gros, plus il choisit vite.
mais il va aussi dépendre de ce qui lui arrive autour de lui. Si le chat interagit avec plein de gens, il va plus vite choisir ce qui lui arrive. Là, on est 4-5 autour de la table, on interagit. S'il y avait une foule, on interagirait plus. Et c'est ça que mesure Serge Haroche. Il mesure ce temps au bout duquel le chat va mourir.
Et donc, c'est cette expérience que vous nous racontez également parmi 10 autres, hein, puisqu'il y en a 11 exactement dans cet ouvrage. Ça s'appelle « Mon grand mécano quantique ». Et ça, justement, c'est tout ce paysage et ces exemples que vous citez qui forment aussi votre mécano quantique, Julien Bobroff. Et ce livre illustré est paru aux éditions Flammarion des chats. Nous allons passer au loup dans un instant. Le plus beau pays du monde nous emmène demain soir dans les Alpes. Ce sera sur France 2. Recommencer, c'était Hubert Lenoir.
Le club sur France Inter.
Il existe tout proche de nous une terre sauvage où la nature cache encore certains de ses plus beaux secrets, les Alpes. Un colosse de pierre long de 1300 km. Des centaines de sommets dépassant 3000 mètres d'altitude, emprisonnant des millions de mètres cubes de glace. Des pentes vertigineuses. Des rocailles coupantes exposées au vent. Un air qui manque cruellement d'oxygène. Comment les êtres vivants se sont-ils adaptés à ces conditions extrêmes? À ce monde où l'hiver dure 8 mois, où les températures peuvent descendre jusqu'à moins 40. Comment résistent-ils dans ces conditions infernales? Des cimes des plus hautes montagnes jusqu'aux profondes vallées. Voici les destinées surprenantes de ces voisins animaux, en prise avec la violence des éléments. Un grand voyage à côté de chez nous, dans le dernier sanctuaire d'Europe.
La voix de Gérard Lanvin pour cet extrait du plus beau pays du monde. Demain, 21h sur France 2. Frédéric Fougère, vous en êtes le réalisateur. Et à vos côtés, Franck Courchamp, qui est écologue, spécialiste de la dynamique des populations et de l'impact du changement climatique. Et Franck Courchamp, vous avez été conseiller scientifique justement sur ce film. Frédéric Fougère, c'est votre nouveau bébé, hein, le troisième de cette série.
Oui, tout à fait.
Vous avez fait des cartons avec les deux premiers, des audiences spectaculaires.
Ça a beaucoup plu, notre patrimoine naturel s'intéresse, les gens, ils aiment bien se l'approprier un peu aussi.
Ouais, le plus beau pays du monde, c'est devenu quasiment une marque, le mot est pas très joli, mais...
Oui, c'est une marque, hein, on peut dire que c'est une marque. Et évidemment, on pense à notre patrimoine culturel, naturel français, mais c'est un peu plus large que ça. C'est, les animaux, ils n'ont pas vraiment de frontières.
C'est ça. Mais vous avez élargi, en fait.
On a élargi.
Hein, au fil des opus. Hein, c'était la France au départ, et maintenant, on est dans le massif alpin.
Exactement. Bon, c'est aussi une façon de regarder la nature, d'aller regarder ce qui va bien aussi, ce qui interagit positivement. On a bien aimé s'intéresser à l'entraide dans ce film-là.
Oui, Franck Courchamp, ça c'est important aussi de voir ça au fond de la faune, hein, mais aussi entre les espèces végétales et animales.
Oui, parce que en fait, en écologie, qui est la science qui étudie les interactions entre les espèces, on a pendant des décennies mis l'accent vraiment sur la compétition entre les espèces. Et on a réalisé assez tardivement, donc assez récemment, que la coopération entre les espèces était vraiment une force écologique majeure.
Ouais. C'est aussi une question de survie, finalement. Hein.
Tout à fait, surtout dans des milieux extrêmes, comme les milieux montagneux.
Ouais. Et on peut assister à de drôles de coopérations entre un animal et un végétal, par exemple.
Hein. Oui, alors on a vraiment tout le panel de la coopération entre deux individus d'une même espèce à la coopération entre deux individus ou plusieurs individus de plusieurs espèces, et même, effectivement, du végétal et de l'animal.
Ouais. Frédéric Fougère, quand on part vers une nouvelle aventure, parce que c'est plus de 2 ans de tournage, hein, c'est un truc absolument colossal. Il faut d'ailleurs avoir pratiquement plus de patience que ceux qui font de la physique quantique dans les laboratoires pour filmer les animaux.
Pas, 25 ans, c'est trop.
Oui, mais pour tomber sur la scène, parce qu'il y a des scènes absolument hallucinantes dans le film, d'une confrontation, entre autres, entre un mâle alpha loup et un ours, la probabilité de tomber sur une scène comme ça, elle est quand même très mince,
non ? C'est vrai qu'on se renseigne beaucoup à l'avance. On commence d'ailleurs, notre premier travail, c'est avec les scientifiques. Pendant un an, on fouille la science pour savoir ce qu'on a découvert récemment comme histoire, comme interaction. Et puis après, c'est les naturalistes. Et les naturalistes, ils ont une autre science, je dirais, c'est qu'ils ont l'observation. Ils voient ce qui se passe sur le terrain. Et ils savent qui habite où, quel animal habite où, qui est en conflit avec qui se rapproche.
Mm-hmm. Donc à quel endroit on est susceptible de les rencontrer.
Exactement, c'est eux qui nous rapprochent de l'action, finalement. Et seulement à ce moment-là, on peut commencer à tourner, parce que on connaît les individus.
Ouais. Donc là, le massif alpin vous a emmené dans plusieurs pays à la fois, au fond.
Oui, on est allé en Italie, en Autriche, en Suisse et en France, bien sûr. Ouais. C'est un magnifique massif, hein, extraordinaire. Et on raconte des aventures, on a trouvé des aventures d'entraide extraordinaires. Bon, d'abord les loups, c'est vrai que les loups, on en parle beaucoup, mais c'est une fabuleuse organisation collective. Par exemple, les louves, quand elles mettent bas, elles ont un système d'induction de lait auprès des louves, des louves qui sont leurs filles en général, mais qui des louves qui sont dans la meute.
Ça déclenche la lactation
aussi chez les filles. Ça déclenche la lactation chez les filles et les femelles présentes. Comme ça, la femelle qui a mis bas, elle peut vaquer à ses occupations et elle file ses rejetons aux autres qui servent de nourrice, quoi. C'est assez marrant.
Ouais. Michel Horry, est-ce que vous avez vu beaucoup de loups, vous, dans le massif jurassien?
Ah non, aucun. J'essaie de voir.
Jamais? Vous en avez jamais croisé?
Non, jamais. J'essaie de voir des lynx parce que je vais beaucoup marcher en montagne. Alors, il y a des lynx, mais moi, je n'en ai jamais vu un devant moi. Mais
là, on en voit un, justement.
On en voit, qu'on a magnifique. Tourné aussi dans le Jura. On en a tourné dans le Jura, des lynx. Et il commence à y avoir des loups dans le Jura, mais ils sont très, très peu visibles, évidemment. Mais
il y avait un cerf albinos dans le Jura là qui était très prisé de tous les naturalistes parce que c'est assez rare.
Mais c'est pas un avantage d'ailleurs d'être albinos dans la nature, Franck Courchamp. Sauf dans la neige. Sauf dans la neige, pour le coup.
Oui, c'est sûr que c'est pas un avantage. De la même manière, on a beaucoup parlé d'une panthère noire en Afrique la semaine dernière, parce que c'est aussi pas un avantage. Oui. C'est un avantage dans la jungle, parce qu'on est plus camouflé, pas trop dans la savane. Oui. Et là, dans les forêts, être blanc, c'est effectivement pas du tout un avantage.
Oui. Alors, on découvre des drôles de choses dans ce film, Frédéric Fouja. Il y a des grenouilles alpines aussi, par exemple.
Il y a des grenouilles rousses, des grenouilles communes qui se sont adaptées à la haute montagne. Elles vivent à 2500 mètres. Alors elles passent 8 mois enfouies sous la terre, elles font une espèce d'hibernation, puis tout d'un coup elles sortent et là il faut se reproduire, un rendez-vous. Speed dating des montagnes, rendez-vous toutes les grenouilles au même endroit, et là, manque de bol, il y a une femelle pour 5 mâles. Donc c'est un peu la course et la foire d'empoigne pour... il y a 4 mâles qui finissent tout seuls. Hein.
Ouais. C'est terrible. C'est terrible. Là c'est de la compétition pour le coup, Franck Courchamp. Hein.
Alors c'est de la compétition, mais il ne faut pas oublier quand même que la reproduction sexuée, c'est la première forme de coopération. C'est-à-dire que pour pouvoir transmettre nos gènes à la génération suivante, il y a eu cette chose magique qui s'est passée un jour, la reproduction sexuée, qui fait que c'est beaucoup plus efficace de le faire à deux pour avoir un rejeton qui va être... plus solide.
Ouais, Frédéric Fouja, il y a cette scène aussi de bouquetin en train de grimper évidemment une falaise. Alors on découvre ce que c'est en réalité, on peut peut-être laisser aux téléspectateurs d'ailleurs découvrir ce que c'est vraiment. Comment on filme ça d'ailleurs ?
Ben, on sait que ça se passe à telle époque précisément, et puis on se renseigne, on est prêt, on a une équipe qui est prête à démarrer, et puis justement on a des gens sur le terrain qui disent « Ah ça y est, il y a une femelle qui arrive avec son petit, ils vont être là dans une journée, et ils vont probablement monter sur le barrage. » Donc là on envoie l'équipe, et puis ça se passe. Et
Donc c'est un moment de formation aussi ce qu'on voit, hein. C'est comment la mère transmet aussi à son petit cette capacité... Avec ces sabots que vous décrivez quasiment comme des ventouses, ce qui est complètement contre-intuitif d'ailleurs, et le fait que le petit puisse à son tour être dans des situations ultra périlleuses quand même.
C'est extraordinaire, ce petit, il a quelques semaines et il est au milieu d'un barrage vertical et il tient debout et il fait des sauts à droite, à gauche.
C'est ça.
Tout ça pour aller apprendre à lécher le mur à certains endroits puisqu'il y a des selles qui l'intéressent. Ouais. Et oui, c'est une initiation, c'est un rite d'initiation. Que toutes les mères doivent apprendre à leurs petits pour qu'ils puissent survivre après ils vont revenir plus grands.
Franck Courchamp, il y a beaucoup de compétition quand même aussi dans la nature, ne serait-ce que pour garder sa nourriture. On voit un oiseau qui prend un soin extraordinaire à camoufler sa nourriture et puis il se la fait piquer par un écureuil. Quoi.
Oui, il y a évidemment, c'est pas pour rien que les écologues ont mis en avant la compétition d'abord, c'est ce qui se voit le plus. Alors quand je dis compétition, c'est vraiment au sens large, hein. C'est la prédation, c'est là ce qu'on appelle du kleptoparasitisme, c'est-à-dire le parasitisme. Klepto, c'est le vol. Il y a pas mal d'exemples comme ça qui sont assez intéressants. Donc on a effectivement dans ce film des images extraordinaires de petits animaux, je dirais pas qui vont voler des trésors à d'autres animaux. C'est quelque chose d'assez extraordinaire. Ouais. C'est aussi des images qui sont assez fantastiques.
Ouais. Frédéric Fougel disait tout à l'heure, le plus beau pays du monde, c'est aussi une façon de montrer une nature qui va bien, finalement. Alors, est-ce que c'est une perception esthétique qu'on peut en avoir, ou est-ce que c'est une réalité aujourd'hui ?
Alors, si on regarde les interactions entre les espèces, qui sont si complexes dans le temps, dans l'espace, avec autant de partenaires qui existent dans les écosystèmes, on est obligé d'être séduit par l'esthétisme de toutes ces interactions qui fonctionnent aussi bien. On se demande comment est-ce que ça peut marcher, et plus on étudie ça, plus on trouve que c'est fantastique,
Julien Bobroff.
Oui, je me demandais si, alors vous, pour le coup, en regardant les images filmées, vous avez appris des choses scientifiquement.
Alors oui, il y a des choses où je me suis dit il va falloir que je creuse, notamment cette histoire de batraciens qui vivent dans des mares gelées et qui se reproduisent à des moments où l'eau est très très froide et où le développement donc des œufs dans l'eau se fait normalement pour ces animaux-là dans des températures chaudes, ça dépend vraiment de la température. Là, c'est des choses où je me suis dit, il faut vraiment que j'aille voir un peu plus là-dedans parce que c'est assez fascinant, c'est très contre-intuitif. Ouais.
Frédéric Fougère, on croise un humain quand même dans le film, hein, pendant, oui. sur les 90 minutes. Et alors, quel humain, parce que vraiment,
type exceptionnel.
C'est un sacré bonhomme. Hein.
Ouais, c'est un type qui a, d'ailleurs qui vient de la communication. Il y a 10 ans, il était communicant, il travaillait dans une cité, il en a eu marre de la ville. Et il s'est improvisé berger.
Ouais.
C'est par ailleurs un grand yogi et méditant.
Il y a une très belle scène d'ailleurs, la première. Hein, on le voit dans ses postures.
Et aujourd'hui, il est un des meilleurs bergers. Il est connu, il est engagé pour emmener les troupeaux dans les endroits les plus dangereux des Alpes. Parce qu'il a constitué autour de lui une meute de chiens qui ont chacun leur rôle. Un peu comme une meute de loups, d'ailleurs.
Ouais.
Et ce qui est très intéressant, c'est que ces chiens, ils vont pas attaquer les loups, mais ils vont manifester leur présence et s'organiser de telle façon que les loups vont trouver compliqué d'attaquer le troupeau. Mmh. Et du coup, il n'a quasiment aucun décès, aucune brebis tuée dans des endroits où il y a beaucoup de loups. Parce que les loups sentent... quand on est loup, on veut surtout dépenser le minimum d'énergie pour se nourrir. Hein, parce que l'énergie, c'est compliqué dans les montagnes.
Ouais.
Donc, s'il y a trop de problèmes, les loups s'en vont. Et bien, ce berger-là, il a fait une espèce de synthèse et il arrive vraiment à avoir des résultats.
Quel est son nom ?
Mathias Cornelli.
Voilà, Mathias Cornelli qu'on pourra voir évidemment. Et puis quand vous parlez d'énergie et d'économiser de l'énergie, on voit quand même que votre louve, elle parcourt quasiment des milliers de kilomètres dans les Alpes. Hein. C'est incroyable, vous avez retracé le périple.
1300 kilomètres en quelques semaines. Hein. Ouais. Ils ont une faculté d'endurance, ces loups, ce qui m'a vraiment impressionné.
Le plus beau pays du monde, opus 3, donc demain. On vous souhaite une audience aussi belle que les deux précédents, parce que ça fait partie des documentaires qui ont le mieux marché sur France 2. Donc c'est demain, samedi soir, 90 minutes dans le massif des Alpes, Francorchamps.
Oui, si l'audience est aussi belle que le film, il n'y aura pas de problème.
Et c'est donc demain à partir de 21h. Dans un instant, nous parlons astéroïdes avec un jurassien.
Tu n'aimes
Le Grand Sommeil, Étienne Dao.
La tête au carré, le club, sur France Inter.
Vous avez vu ça, Cano?
Ah oui, on dirait un gros astéroïde, mais il n'est sûrement pas dangereux.
Néanmoins, il vaut mieux interroger l'ordinateur.
Mais c'est inutile, Paul, il ne peut pas entrer en collision avec nous.
Et l'ordinateur prévoit une collision, il donne l'alerte.
Commandant, la trajectoire de l'astéroïde vient de se modifier. C'est comme s'il avait été dévié par une force inconnue.
Cano, essayez de déterminer le point d'impact exact.
Quel est le problème, John?
Un astéroïde. Commandant Koenig, la collision est bien confirmée.
On dispose de combien de temps?
Seulement une minute.
Ah oui, c'est pas beaucoup quand même. Hein. Une minute face à l'arrivée
réagir, c'est un
d'un astéroïde. Cosmos 1999. Michel Horry, vous êtes le dernier invité de ce club. Vous êtes astronome amateur, professeur de sciences physiques et vous publiez Chasseurs d'astéroïdes aux éditions Le Pommier avec des dessins de Pitch Comment? Comment?
Voilà, Pitch Comment.
C'est un garçon, une fille? Voilà.
Non, non, c'est un monsieur qui habite pas loin de chez moi, dans le Jura suisse aussi.
Bien. Et vous, le plus beau pays du monde, eh bien, c'est le ciel, avec ces roches qui parfois sont visibles quand on a la chance de tomber dessus, quand même. Hein.
Alors, le ciel, oui, parce que si on prend Tycho Brahe, qui était un astronome évidemment très connu, ouais. On lui a fait faire des études parce qu'il c'est toute
sa famille. Hein,
voilà, ouais. Je remonte assez loin, mais toute sa famille, dans le fond, s'appropriait des îles entre la Suède et le Danemark, le détroit ouais. qui se trouve là. Et puis, on lui a fait faire des études pour gérer tout ce patrimoine. Et puis, finalement, il s'est rendu compte que le ciel n'appartenait à personne. Puis, ouais. il s'est dit, alors, il m'appartiendra. Voilà. Et c'est vrai que le ciel appartient à personne. Moi, je pense que ça devrait être du patrimoine mondial de l'UNESCO pour que chaque enfant de n'importe où sur la planète puisse voir la Voie lactée chaque soir que c'est soit découvert.
Alors Julien Bobroff nous racontait son premier contact, en tout cas vraiment son coup de cœur avec la physique en visitant un laboratoire. Pour vous, Michel Horry, ça s'est passé comment alors, cette passion pour les astéroïdes?
Alors j'ai fait une formation de physicien, moi j'ai été toujours intéressé par les moyens de locomotion. Alors ça a commencé en étant petit enfant par les voitures, les trains, les avions, les fusées. Puis finalement en faisant des études de physique et un peu d'astrophysique, je me suis rendu compte dans le fond le meilleur moyen de voyager c'est le télescope.
Ouais.
Pour moi ça c'est l'outil idéal pour aller loin.
Ouais. Et on peut voyager loin de chez soi, hein. En plus c'est pratique, non?
Ah ben avec un petit télescope on peut regarder des galaxies qui se trouvent à des centaines de milliers d'années-lumière.
Ouais. Est-ce que vous aimez le ciel d'ailleurs, Julien Bobroff?
Oui, moi au début je voulais faire astrophysicien, hein, avant d'aller dans un laboratoire de physique quantique, c'était clairement la chose qui me fascinait le plus.
Ouais. Donc vous êtes un observateur aussi, hein, encore?
Non, non, pas du tout. Très mauvais observateur.
Ouais. Alors il faut.
On a encore pas mis le ciel en laboratoire, hein. C'est un peu difficile.
Bon, alors justement les amateurs, eux, ils ont un rôle très très important auprès des scientifiques, parce que des découvertes, et d'astéroïdes en particulier, sont dues à des amateurs. Hein.
Si on regarde ce qui se passe en Europe, dans le fond, on construit beaucoup de grands télescopes qui coûtent extrêmement cher, et on enferme beaucoup de petits. Mais il y a beaucoup d'observations, beaucoup d'objets célestes qui demandent beaucoup d'observations, très longtemps, pas forcément avec des gros télescopes, et il y a aussi des objets comme des novas, des supernovas, des astéroïdes géocroiseurs qui doivent être observés extrêmement rapidement, oui. un timing extrêmement, et les amateurs, la cohorte d'amateurs, dans le fond, représente un potentiel intéressant pour les scientifiques, parce que ils ont cette capacité, ils sont nombreux, ils sont réactifs, et ils peuvent prendre le temps pour faire des observations. Donc vous avez des amateurs qui font des observations sur des étoiles variables depuis 10 ans.
Ouais, donc ils sont écoutés par les scientifiques aussi. Enfin, là aussi, il y a de l'entraide finalement entre l'amateur et le scientifique.
Il y a beaucoup de coopération. Ah, moi, je suis en interaction avec beaucoup de scientifiques parisiens notamment.
Ouais. Franck Courchamp.
Oui, tu as dit tout à l'heure en préambule qu'il fallait 5 à 10 ans d'observation pour officiellement avoir découvert un nouveau corps. Et en fait, ça me parle parce que en écologie, en biologie de la conservation, il faut une cinquantaine d'années pour pouvoir dire qu'une espèce est éteinte. C'est normal, il faut qu'on cherche un petit peu partout pour être vraiment sûr qu'elle soit éteinte. Par contre, quand on découvre une espèce, en général, c'est immédiat. Et du coup, je me suis vraiment posé la question, pourquoi est-ce qu'il faut du temps, une fois qu'on a découvert quelque chose, pour dire officiellement qu'on l'a découvert?
Michel Horry.
Il y a très peu de temps, disons, il y a encore 10-20 ans, quand on découvrait des astéroïdes, dans le fond, ils étaient perdus assez rapidement. Quand j'ai commencé il y a 20 ans d'observer ces objets, on connaissait 20 000, donc ça veut dire qu'on les observait pas beaucoup. Depuis 2 siècles, on en avait découvert 20 000. Et en 20 ans, on en a découvert 500 000. Et donc, les moyens sont complètement différents aujourd'hui, il y a 20 ans ou il y a 100 ans. Et dans le fond, un astéroïde,
s'il n'est pas massivement observé, si on ne surveille pas massivement le ciel, la plupart de ce qu'on détecte, on ne sait plus où ils sont. Alors il y a ceux qui croisent jamais l'orbite des planètes telluriques ou les géantes. Ceux-là, on saura si on a assez de mesures, assez d'années, on saura où ils sont parce qu'ils seront pas perturbés. Mais tous les autres qui croisent les orbites des planètes, si vous les observez pas, vous ne saurez plus où ils sont.
Francorchamps, qui nomme justement, qui donne le nom aux nouvelles espèces découvertes dans votre domaine ?
En général, c'est les gens qui les découvrent. Ouais. Et on a des noms des fois assez intéressants, avec des petits clins d'œil aux héros des séries.
On a tout, hein, des personnages historiques. C'est comme ça pour les astéroïdes.
C'est exactement la même chose. Moi, j'ai mis par exemple Tournesol, j'ai mis aussi Titeuf.
Il y a un astéroïde qui porte votre nom, Michel Horry ?
Voilà, alors.
Quelle chance! On est tous jaloux, hein. Alors là, vraiment, on veut tous notre astéroïde.
Voilà, alors, les astéroïdes sont pas à vendre, dans le fond, mais la bonne technique pour l'astronome amateur qui découvre des astéroïdes, c'est de dire qu'on peut en nommer, moyennant un petit peu d'aide, parce qu'évidemment, pour les observer, il faut toujours un petit peu quelque chose.
On va être sympa avec vous, comme ça, il y aura peut-être un astéroïde tête au carré un jour qui va croiser le ciel, on aimerait bien, en tout cas. Et alors, vous racontez une histoire amusante, justement, sur les noms donnés aux astéroïdes, c'est qu'on vous a demandé un jour de donner le nom d'un astéroïde du nom de Ben Laden, c'est ça ?
Exactement, oui, c'est à ma grande surprise. Donc, en fait, comment c'est produit ? Ça s'est produit avec plusieurs intermédiaires. Donc, des astronomes de l'université de Liège qui construisaient un télescope au Maroc. Une société allemande, la société Astelco, qui construit des grands télescopes. Un petit peu dans le monde entier, y compris pour ces Belges. Et puis, finalement, la troisième entité, c'est le ministre des Infrastructures de l'Arabie Saoudite, en tout cas à l'époque, c'était en 2013-2014, aujourd'hui, je ne sais pas s'il est encore en fonction, qui s'appelait le Cheikh Bakr Ben Laden. Le Cheikh Bakr Ben Laden, il est féru d'astronomie, il a construit dans sa propriété privée au bord de la mer Noire, au bord de la mer Rouge, un observatoire vraiment très bien équipé. Il a aussi construit un télescope à 400 mètres dans une tour à côté de la Mecque. Et dans le fond, il aimerait donner à l'Arabie Saoudite l'aura d'antan qu'elle avait quand on nommait les étoiles du nom arabe.
L'âge d'or des sciences arabes, ouais.
Et il voudrait faire un observatoire national en Arabie Saoudite. Alors, comment est-ce qui m'a contacté ? Dans le fond, c'est l'industriel allemand, parce que les Belges voulaient faire des quatre télescopes au Chili qui s'appellent les télescopes Spéculoos. C'est l'équipe belge qui a trouvé le système Trappiste.
Ah oui, Spéculoos, bien sûr.
Voilà, donc Trappiste puis Spéculoos. Donc il fallait financer ces quatre télescopes qui coûtaient à peu près 1 million chacun. Et donc ils sont allés en Arabie Saoudite trouver du
financement.
Monsieur
Ben Laden.
Non, pas directement, l'université de Jeddah. Mais là-bas, voilà, tout remonte en haut. Et puis ce dirigeant de la société allemande était un ami personnel de ce ministre des infrastructures, parce que c'est lui qui avait construit son observatoire privé. Et puis, quand il a su, par l'intermédiaire des astrophysiciens belges, que je nommais des astéroïdes, eh bien, il s'est dit, ça, ce serait une bonne idée pour avoir un peu plus de contrats. Et puis, les Belges se sont dit aussi, eux, ils étaient gagnants, quoi. Alors, effectivement, au moins trois raisons, j'ai pas pu mettre cet astéroïde Ben Laden. Ça m'a beaucoup perturbé, je dois dire. Je ne savais pas si j'allais être invité à Riyad, si on allait m'embêter parce que je pouvais pas le faire. Mais enfin, il y avait trois bonnes raisons pour ne pas pouvoir. Premièrement, le nom, déjà. C'est un demi-frère d'Oussama Ben Laden, ce Cheikh Bakr Ben Laden. Donc,
Sauf qu'il n'y est pour rien, évidemment. Mais...
Le comité qui accepte ces noms d'astéroïdes, ils sont 11, dont 5 américains, donc c'est clair que ça n'allait pas, première chose. La deuxième chose, c'est on ne peut pas mettre des politiciens 100 ans après leur mort, jusqu'à 100 ans après leur mort, donc là, le délai n'était pas... Voilà, c'était beaucoup trop tôt. Et puis la troisième chose, on ne peut pas mettre des noms commerciaux, bien qu'il y ait un astéroïde qui porte le nom de Samaritaine, la Samaritaine, donc voilà. Mais on peut pas mettre de noms commerciaux. Donc ce monsieur Bakr Ben Laden était la plus grande entreprise de BTP d'Arabie Saoudite. Donc pour ces trois raisons, ça n'allait pas.
Impossible. Mais alors un satellite. Mathieu Vidard, ce serait possible. Un
astéroïde. Ça me gênerait, franchement, non.
Si, ce serait tout à fait possible.
Pour son anniversaire.
Parlez-nous de l'Atlas marocain, parce que là aussi, c'est un ciel extraordinaire pour observer les astéroïdes en particulier.
Ah oui, alors là, dans le Jura, j'ai observé 10 ans avec un télescope plus grand que celui que j'utilise maintenant dans l'Haute Atlas. Mmh. Mais pour vous donner un ordre d'idée, dans le Jura, je suis à 600 mètres. Dans l'Haute Atlas, on est à 2800 mètres, comme au pic du Midi. Oui. Et puis avec un télescope un peu plus petit, sur à peu près la même durée, dans le Jura, j'ai observé 40 000 positions d'astéroïdes sur 10 ans. Dans le Haut Atlas, on a fait 1 300 000 mesures de position d'astéroïdes sur ces objets en 8 ans. On fait plus d'observations. Je fais ces observations avec une Française qui s'appelle Claudine Riner, qui est aussi astronome amateur comme moi. Et on fait plus d'observations sur ces petits objets. Évidemment, si on les observe pas, il faut que des gens les observent pour qu'ils soient pas perdus. On fait plus d'observations que l'ensemble de l'Europe.
Et c'est un lieu que vous pouvez justement observer depuis chez vous aussi, hein, parce que vous êtes relié.
Ah donc oui, on fait tout ça avec par internet, ouais. Évidemment, parce que sinon.
Grand passionné en tout cas d'astéroïdes, Michel Horry, avec des illustrations de Peach Comment, chasseur d'astéroïdes, et c'est donc aux éditions Le Pommier. Merci beaucoup à tous d'être venus aujourd'hui dans le club. Julien Bobrov, donc mon grand mécano quantique, c'est chez Flammarion. Et puis demain, tout le monde sur France 2, 21h, pour regarder le plus beau pays du monde dans les Alpes. Passez un très bon week-end, à bientôt. C'est terminé pour ce club. Charles Pélabon était à la technique. Passez un excellent week-end. Fabrice Drouel dans un instant avec Affaires Sensibles. Et toute la semaine prochaine, c'est Daniel Fivet qui sera aux commandes de La Tête au Carré. À bientôt.